Quand on te dit qu'un comportement est raciste, ça crée une contradiction interne. L'idée « je suis une bonne personne » entre en contradiction avec « tu as fait un truc raciste ». Tu es une mauvaise personne. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et Amandine Gay l'explique super bien dans son livre. Et pour réduire ce malaise, le réflexe, c'est de nier, ou se justifier, ou se mettre en colère, ou alors fondre en larmes. Résultat, au lieu d'écouter, on se protège. Et souvent, ça force la personne qui a fait le reproche à devoir nous consoler. Et c'est exactement comme ça que le système raciste continue de fonctionner.
Du coup, dans le troisième exemple, on a voulu mettre en lumière certains biais et à nouveau certaines intersections. Et donc, ça pourrait être l'expérience d'une personne racisée, polya depuis longtemps, donc expérimentée, qui commencerait à sortir avec une personne blanche et qui, elle, est débutante dans le polyamour ou même en questionnement. Et donc là, on se rend compte qu'il y a plusieurs rapports, à savoir un rapport de sachant versus apprenant qui crée un biais. Et aussi un rapport de racisme entre une personne racisée et une personne blanche.
Donc là, on a des enjeux de pouvoir qui vont être complètement opposés et qui vont venir, en fait, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça s'annule ? Non, c'est des choses qui vont venir se croiser et s'imbriquer l'une dans l'autre. Là où la personne racisée, mais expérimentée, va pouvoir avoir du pouvoir sur la personne débutante, même si elle est blanche, c'est le fait qu'elle va avoir de l'expérience, elle va pouvoir apporter du cadre, de l'enseignement à la personne qui se questionne ou qui débute, et qui pourrait du coup prendre le dessus sur l'enseignement du polyamour et formater l'autre personne à sa façon de voir le polyamour. Là où en face, la personne blanche, par la société, va être mise dans une position de pouvoir par rapport à une personne racisée, et la personne racisée va pouvoir subir la discrimination, la fétichisation, et ce sont des enjeux de pouvoir qui vont pas... C'est pas parce que toi t'es racisé mais que t'as de la connaissance et que moi je suis blanche et que je débute, que en fait ça s'annule. Les choses restent là et elles s'intercroisent.
Nous, on a envie de mettre la lumière sur la position d'allié, à savoir comment ça peut aussi bien se passer dans certains rapports interpersonnels. Pour nous, c'est reconnaître les rapports qui existent et de laisser de l'espace. Je dis souvent, l'espace, c'est vraiment la chose la plus importante, laisser l'espace à l'autre de s'exprimer. Ensuite, c'est aussi utiliser ses privilèges pour les personnes privilégiées pour soutenir la personne en situation d'oppression. Et être allié, c'est pas se nier, c'est pas se comporter comme une serpillière, parce que ça aussi, ça arrive en fait. Et notamment en thérapie, je vois souvent des personnes qui, de par leur position privilégiée, s'oublient complètement, se sous-estiment, et certaines viennent s'auto-flageller. Ce qui a pour effet que la personne dominée se retrouve à devoir consoler le dominant. Et alors ça, c'est no way.
C'est qu'à partir du moment où on a identifié nos privilèges et là où on est discriminé l'un par rapport à l'autre, donc par rapport à soi, par rapport à ses partenaires, par rapport à la famille et la construction, l'histoire de ses partenaires, on peut en discuter. À partir du moment où on visibilise les enjeux de pouvoir et les rapports de force qu'on a entre nous et que la société nous impose, on peut créer quelque chose de sain et qui nous permet de grandir et limiter les violences interpersonnelles. Parce que c'est quand même l'enjeu de tout ça, c'est de ne pas reproduire ou de limiter au maximum ce qu'on reproduit comme violence au sein de nos relations.
Si vous avez déjà vu des situations où une personne impose un cadre relationnel sous couvert de... C'est comme ça que ça fonctionne. Et comment on distingue partage d'expérience et prise de pouvoir?
Alors oui, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, où la personne qui a plus de légitimité peut venir disqualifier la personne qui apprend, et elle va plus ou moins consciemment imposer son système de valeurs à la personne qui découvre et qui apprend. Ça peut être culpabilisant, ça peut être une façon de lui reprocher qu'elle n'est pas assez, qu'elle doit travailler sur elle-même, qu'elle n'est pas encore assez déconstruite, ou qu'elle est trop sensible, ou trop réactive, ou qu'elle n'a pas fait assez de travail, en fait. Et c'est là où c'est important de garder une certaine vigilance en tant que personne plus expérimentée sur le fait de laisser, comme disait Jules encore, de l'espace à la personne qui découvre l'espace de se poser les questions de qu'est-ce que je veux réellement, quel est mon système de valeurs, pourquoi j'ai envie d'être dans des relations plurielles et qu'est-ce que j'y cherche, et est-ce que ce que la personne plus expérimentée apporte est cohérent avec mon système de valeurs. Et c'est quelque chose auquel nous on fait particulièrement attention dans notre communauté, notamment parce que avec Jules, on a fondé une association autour du polyamour, on anime des rencontres, on anime des ateliers. Ça nous pose dans une situation en fait qui n'est pas la même que celle des membres et des personnes qui viennent assister. On se retrouve dans une position de sachant avec une parole qui peut être prise comme très descendante et ça vient biaiser forcément nos rencontres. Et on ne peut pas se permettre de rencontrer des gens sans poser cette question d'emblée. J'ai peut-être plus d'expérience que toi, ou je donne peut-être l'impression d'en avoir plus que toi, mais ça ne veut pas dire que ton ressenti ne compte pas, qu'il n'est pas valable et qu'il n'a pas toute sa place dans nos conversations et dans la co-création de notre relation.
Et il y a des fois où c'est pas possible en fait. Il y a des fois où la symétrie elle est trop grande et qu'il y a des intérêts qui sont pas compatibles avec les autres. Et donc il y a parfois des relations qu'il faut laisser tomber. C'est pas toujours possible en fait, quand les rapports de force ou de pouvoir sont trop indépassables. Ouais.
Et oui, c'est triste, c'est dommage, c'est frustrant, mais c'est important de pouvoir reconnaître qu'en fait, on ne veut pas les mêmes choses ou qu'on ne peut pas s'apporter ce que l'un, l'une, l'autre veut. Et mieux vaut désamorcer la situation rapidement et plutôt que de s'entêter dans une situation qui va être un lieu de, potentiellement de violence.
Jamais marrant les ruptures, mais plus je creuse et plus j'ai la nette impression que c'est la bonne décision. Alors ne prends pas mal, toi je t'aime, et c'est pas me barrer qui va changer ça. Mais j'en ai marre que tu me vois comme une anomalie quand j'aime plein de gens à la fois. Des années à manger dans la gueule, des phrases du genre t'en as juste rien à carrer. Des années à m'en vouloir de quitter ce que j'aime, ça m'a blindé, fatigué. Alors prends ça comme un coming out polyamour, comme du foutage de gueule à toi de voir. Mais j'ai trop fait semblant de croire au Disney, et là j'en ai marre. Et j'aimerais te dire bébé j'ai laissé mon âme dans cette chambre qui sentait la pluie, la nuit d'orage où on s'est dit au revoir dans cet hôtel à Düsseldorf. Mais j'aime pas t'appeler bébé et je crois pas en l'âme. Mais y'avait ni chambre d'hôtel ni pluie. Le beau jour de soleil où on s'est dit au revoir. Très très loin de Düsseldorf. Oh,
Et maintenant, on va essayer de vous parler d'une dernière situation. Je vais vous raconter une histoire qui est un peu plus longue du coup, parce que je pense que tout le contexte est important. Donc un homme justifie son besoin de liberté auprès de sa compagne. Il essaie de la convaincre à partir de la théorisation des relations. Il insiste sur son besoin à lui, mais ne laisse pas la place à son partenaire pour le doute, pour savoir ce qu'elle, elle a gagné dans cette situation. Progressivement, il continue de nier les émotions et l'anxiété générées chez sa partenaire. Il lui dit qu'elle est la femme de sa vie, qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Cette expérience des relations plurielles est possible uniquement grâce à la force de leur couple. Elle, elle se sent prise au piège. Même si elle est plutôt convaincue sur la théorie, mais ses émotions en sont trop. Dès qu'elle cherche à exprimer ses ressentis, s'ensuivent des conversations sans fin, dont elle sort embrumée, perdue, vidée. La culpabilité la ronge, elle finit par accepter l'ouverture. Le jour où elle rencontre un nouvel amoureux, son partenaire exprime qu'il se sent délaissé. Il alterne entre des moments chaleureux et des moments de colère intense. Donc sa partenaire marche sur des œufs et fait tout pour ne pas l'activer lui. Elle ne sait plus comment se comporter. Un jour, il lit ses messages téléphoniques et il se victimise de lui avoir laissé à elle la possibilité de vivre sa vie alors que lui se sent malheureux parce qu'il ne fait pas de réelles rencontres de son côté. Donc elle se sent toujours plus coupable, elle lui propose de rompre avec son nouveau partenaire, mais de revenir comme avant. Mais il refuse. Il dit qu'il préfère continuer, mais qu'il veut qu'elle investisse plus dans leur sexualité de couple. Que si elle voit son autre partenaire, c'est plus égalitaire s'ils ont aussi du sexe ensemble avant.
Du coup, là, on voit bien dans cette situation qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui va. Et comment toi, tu expliques ça ?
Ce qu'on a voulu mettre en lumière dans cette situation, qui est hyper réaliste. Enfin, vraiment, c'est des choses vues, entendues, etc. On voit qu'il y a un homme qui a mis la pression à sa partenaire pour ouvrir le couple et avoir d'autres partenaires. Enfin, lui, il avait l'espoir d'avoir d'autres partenaires, mais en fait, qui ne supporte pas que sa compagne ait quelqu'un. Donc, il a un peu le seum de ne pas faire de nouvelles rencontres. Voilà, ça donne un gros combo, frustration, jalousie, contrôle. On est dans une situation, enfin en tout cas il y a plein de red flags d'une situation d'emprise ou de contrôle coercitif. Les comportements de contrôle coercitif, ils sont assez variés, mais en se rappuyant aux théories féministes, on peut proposer un outil pour comprendre ce mécanisme, et c'est un peu celui-ci qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui, ça s'appelle la stratégie agresseur. Donc la première partie d'une relation toxique, c'est souvent attacher l'autre, c'est-à-dire mettre l'autre sur un piédestal, sacraliser la relation. Notre relation est plus forte que tout.
Il lui dit qu'elle est la femme de sa vie, que sans elle, il pourrait jamais ouvrir son couple, parce que c'est grâce à elle que c'est possible.
Ça peut être aussi la fusion, dont on a déjà parlé. Parfois, c'est maintenir un secret. Et donc, ça crée une complicité ensemble. Ouais. Invoquer un intérêt supérieur. Par exemple, notre union est bénie par les dieux ou par Dieu. Ce genre de discours. Tout simplement lié par des intérêts matériels. Donc, on prend un énorme crédit et en fait, on est indétachable. Ça, c'est la première pierre. La deuxième pierre, ça va être d'isoler. Et il y a plein de manières d'isoler. Ça peut être isolé géographiquement, mais ça peut être aussi isolé socialement. Ça peut être isolé affectivement. Par exemple, ça peut être critiquer tout l'entourage, monopoliser le temps de la personne, qui fait qu'elle n'a absolument plus la possibilité de faire autre chose que s'occuper de la relation. Ça peut être déménager loin, donc c'est l'isolement géographique. Troisième processus, ça va être d'instaurer le système de valeurs de l'auteur, donc personne qui fait l'emprise, et un climat d'insécurité. Donc ça va être humilier l'autre, la dénigrer, l'insulter. Ça, c'est visible. Au départ, ça commence par des toutes petites choses. Ça va être par exemple de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, il y a plein de manières. Ça peut être de manière spirituelle, ça peut être de manière politique. Ça peut être, pour les relations polies, ça peut être de définir ce qui est bien ou mal dans une relation... Ensuite, ça va être de définir ce qu'est la violence. Parce qu'à partir du moment où on définit ce qu'est la violence du point de vue d'une personne violente, en fait, on peut plus se définir comme violenté. Les auteurs vont créer aussi des injonctions paradoxales. Donc quand, dans la petite histoire, la partenaire marche sur des œufs, ça va être ça. C'est que comme il va y avoir des alternances de chaud-froid qui va créer de l'insécurité, du point de vue neurobiologique, ça va empêcher d'avoir sa propre liberté d'action.
Et puis comme injonction paradoxale, on a quand même là un homme qui... force pour l'ouverture du couple, qui convainc sa femme, sa compagne, qui à la base n'était pas particulièrement partante, elle accepte finalement, elle rentre dans le jeu, elle rencontre quelqu'un et là elle devient coupable.
Et c'est la quatrième partie, c'est inverser la culpabilité, c'est-à-dire faire en sorte que la personne victime de violence, puisque là on est dans un contexte de violence, se sente coupable, transférer la responsabilité, nier ou minimiser les faits, prétendre la confusion parfois de « je suis perdue », alors que on génère de la confusion, notamment avec la technique du gaslighting, par exemple, faire douter la personne de sa propre réalité. Mais prétendre que, en tant qu'auteur, qu'on est confus, se victimiser, évidemment. Par exemple, certaines partenaires commencent au départ à se lever contre cette culpabilité qu'on veut leur imposer, voire vont avoir une violence réactionnelle. Et ça, dans les situations d'emprise, c'est terrible, parce que du coup... l'auteur d'emprise va venir vraiment utiliser ces violences réactionnelles et donc transférer la responsabilité de ses actes sur l'autre.
Transformer de la défense en attaque, en fait.
Exactement. Ça brouille toutes les pistes, c'est hyper difficile à lire de l'extérieur, et la culpabilité est hyper forte, parce que, évidemment, la personne qui a eu de la violence réactionnelle est détruite déjà psychologiquement.
Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a décliné le violentomètre, qui est maintenant bien connu par tout le monde, en un violentomètre polyamoureux, pour prendre en compte comment, au sein de relations plurielles, l'emprise et les rapports de violence peuvent se décliner dans ce contexte-là. C'est un outil qui va permettre aussi de décrypter ce genre de situation et de pouvoir s'alerter et demander de l'aide.
Le dernier rouage du mécanisme, souvent, c'est assurer son impunité, c'est-à-dire que les personnes qui génèrent des violences vont aller recruter des alliés. Des alliés, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des thérapeutes. Organiser des sanctions symboliques ou concrètes contre les personnes qui pourraient soutenir femmes victimes de violences dans ce cas-là. Ces personnes aussi qui n'hésitent pas à engager des procédures judiciaires ou menacer d'engager des procédures judiciaires contre leurs cibles. Et parfois aussi, c'est très subtil ça, mais vu et vécu, qui vont offrir ou demander de l'aide en disant « En fait, je me rends compte que je produis ça, aide-moi, sauve-moi. » De toute façon, c'est faire passer la personne avec qui on sort pour folle. Tous les dates où vous rencontrez un mec qui vous dit qu'il a une ex folle.
Ou que toutes ses ex sont folles.
Oui.
Gros red flag. Oui.
Du gaslighting, de la victimisation. En fait, on est vraiment sur l'inversion de culpabilité énorme. Ses ex sont folles parce qu'en fait, elles ont réagi à une situation qu'il a créée.
Oui.
Là, clairement, alors c'est pas dans l'exemple qu'on a donné, mais il aurait très bien pu lui dire qu'il a lu ses messages et que du coup, lui, il va pas bien et regarde à cause de toi comment je me sens mal parce que toi, t'as un amoureux et que tu baises ailleurs alors que moi, je fais pas de rencontres. Alors que c'est lui qui a forcé la situation d'ouverture. Ouais. C'est lui qui a voulu que sa femme, sa compagne, lui laisse la liberté d'explorer ailleurs. Et maintenant, il la lui reproche et il se pose en tant que victime. Et tu me fais du mal alors que t'étais la femme de ma vie. Et ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir voir tellement facilement.
Et en plus, moi, ce que je trouve aussi intéressant sur la violence un peu en réaction ou de défense, en fait, c'est même plus visible que la violence de base. Et du coup, effectivement, la personne passe d'elle-même pour une folle.
Exactement. Parce qu'en fait, la personne qui va être victime, elle va prendre sur elle, elle va temporiser, elle va essayer de s'effacer, elle va marcher sur des œufs. Donc toujours être dans une hyper-vigilance pour essayer de lisser tout ce qui se passe pour ne jamais déclencher la colère, la tristesse, les éclats de l'autre. Et en fait, à un moment, elle va arriver à un point de rupture et en fait, bah, c'est comme une cocotte minute. Si on laisse échapper la vapeur et la pression au fur et à mesure, ça fait un tout petit filet de vapeur, c'est assez peu visible. Mais quand on est une cocotte minute sous pression et qu'on enlève le petit bouchon, ça sort très fort, c'est explosif. Et c'est moins contrôlé et c'est visible. Ça va être des éclats de voix, ça peut être une énorme dispute, ça peut être des insultes. Et c'est quelque chose qui va être vu de l'extérieur, là où tout le petit contrôle coercitif qui se met au quotidien, genre de lire les messages, d'espionner, de reprocher à l'autre, par exemple, que « Ah bah tiens, t'es en train de sourire pendant que tu lis un message, c'est qui ? Ah mais tu souris pas alors qu'on était ensemble là ? Ah mais c'est plus important pour toi de répondre à ce message qui te fait sourire ?» Ça va être que des trucs insidieux. Et c'est là où, justement, ce côté « mon ex est folle », bah t'as bien vu, regarde, elle me crie dessus pour rien. Non, elle me crie pas dessus pour rien. C'est l'empilement de toutes les petites choses mesquines et invisibles de l'extérieur qui déborde à ce moment-là.
Mais c'est des schémas classiques de contrôle, hors cette histoire de poly.
Exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on disait déjà dans le premier épisode, c'est que l'ouverture d'un couple ou les relations polyamoureuses, ça va juste mettre une loupe énorme sur tous les dysfonctionnements qu'on a déjà à deux. Dès qu'on rajoute une tierce personne ou une quatrième, ça va faire exploser tous les petits dysfonctionnements.
Je pense que ce que tu voulais dire par là, c'est que ça, c'est pas spécifique aux relations plurielles. En fait, tous les mécanismes de violence existent. Et en fait, là où on croit parfois que certaines communautés sont plus safe, plus déconstruites, ben, en fait, c'est faux. C'est faux, on est aux mêmes endroits que les autres. Certaines personnes se posent beaucoup plus de questions, d'autres non. Et en fait, voilà, on est aux mêmes endroits. Les mécanismes d'emprise, bon, je vais être assez dure sur ce sujet et assez tranchant. Étant donné que ça produit comme effet l'emprise de remplacer le discours intérieur par le discours de l'autre, mentalement, hein, je veux dire. Et ça utilise ce qu'on appelle le conditionnement intermittent, c'est-à-dire le fait de donner des récompenses ou de l'attention de manière irrégulière et imprévisible. Au niveau neurochimique, c'est-à-dire que ça va provoquer de la dopamine encore plus fort. C'est en lien avec ce qu'on appelle l'attachement traumatique. Et en fait, cette situation-là... Moi, je ne connais pas, mais peut-être je me trompe, mais je ne connais pas de situations qui peuvent se régler d'elles-mêmes. C'est que, de toute façon, le conditionnement intermittent fait qu'on va rentrer avec les phénomènes d'hypervigilance, de déni de soi. On n'a plus les bases, de toute façon, pour revenir sur une relation saine. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de s'extraire de la situation, demander de l'aide, rencontrer d'autres personnes. Donc, enfin, moi, j'ai animé des groupes de parole sur les violences entre partenaires intimes. Et un des leviers qui revient systématiquement pour toutes les personnes, c'est « je suis allée voir d'autres gens ». Pas que des relations romantiques, hein, mais des amis, des associations, des communautés.
Ouais, c'est la fuite. Que là, ce qu'on décrit, c'est les violences conjugales. Donc
c'est
là,
la fuite. Et retrouver, en fait, tu vois, les deux premiers points, c'est attacher et isoler la personne sur laquelle on prend son emprise. Et à partir du moment où on se détache et on sort de l'isolement, on peut avoir d'autres discours qui vont revenir et se réapproprier notre propre discours. On ne se rend plus compte ou on décide aussi de ne pas forcément les verbaliser parce que c'est trop dangereux d'en prendre conscience et de se dire « il faut que je parte ». Parce que partir peut être dangereux.
Des fois, il y a des gens qui sont très conscients de tout ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui savent ce qui se passe, qui le comprennent d'un point de vue théorique, mais qui sont physiquement, enfin, du corporellement, bloqués dans la situation. N'hésitez pas à aller vers des communautés, vers les associations de prise en charge des personnes victimes de violences, et venez aussi sur nos communautés poly. Enfin, pour le coup, on a des personnes formées et on peut aider.
T'es sûr que tu veux pas que je conduise ? Je me sens fatiguée.
Je suis fatiguée, ouais. Fatiguée d'avoir passé la soirée avec des cons.
Je te trouve dur.
Ah, ça, c'est sûr qu'on n'a pas passé la même soirée. Non, laisse tomber, j'ai plus envie. De toute façon, t'as l'air d'une bonne soeur avec ta chemise de nuit, c'est vraiment pas sexy. Enfin, je comprends pas, je te dis que je m'excuse. Que je vais changer. Je suis gentil, là. Pourquoi tu te prends comme ça? Si t'avais un petit peu d'amour pour moi, tu m'aurais jamais laissé te traiter comme ça. Tu dois vraiment pas m'aimer beaucoup pour m'avoir laissé devenir ce monstre.
Alors, comment fait-on la différence entre un besoin, une envie et une position de pouvoir?
Un besoin, c'est nécessaire pour se sentir en sécurité et fonctionner. On sait qu'il y a des besoins qui peuvent être antagonistes, ou en tout cas pas prioritaires en même temps. Mais tous les besoins, dans la définition plutôt psycho des besoins, sont importants. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas cette pyramide de Maslow. C'est un fake, la pyramide de Maslow. Il n'a pas fait de pyramide, il n'y a pas de hiérarchie des besoins. Je tenais à débunker ça. Par contre, certains besoins révèlent de la survie physique et donc nécessitent d'être prioritaires dans la réponse. Manger, boire, dormir, par exemple. Une envie, en revanche, c'est une préférence, un désir, quelque chose qui enrichit la vie personnelle, mais c'est pas nécessaire à la sécurité ni à la survie. Et donc là, le besoin de sexe des hommes, ce n'est pas un besoin. On ne meurt pas de l'absence de sexualité. Oui. Le nombre d'hommes, de jeunes hommes même, dans les collèges, les lycées, on l'entend, qui pensent que va leur arriver un problème de santé s'ils n'ont pas accès à de la sexualité. Et on parle de sexualité partagée en plus, parce qu'en fait, ils ont accès à de l'autosexualité.
C'est ça, exactement.
Comme si la sexualité partagée était vraiment vitale.
Globalement, les femmes aussi ont une libido et une sexualité. Les femmes ne se cachent pas derrière ce « Ah mais mon besoin sexuel est irrépressible, couche-toi là et bande pour moi ». Vraiment, parce qu'on en est là sur le discours de ces hommes qui considèrent leur envie de sexualité partagée comme un besoin vital. Ils exigent aussi un dû et un accès au corps des femmes.
C'est ça, c'est
et ils exigent un accès au corps des femmes qui leur plaisent. Parce que leur argument, ça va être beaucoup « Ah mais oui, mais vous les femmes, vous pouvez coucher avec qui vous voulez ». Alors non, parce que si le mec en face, on ne leur plaît pas, eux ils veulent pas coucher avec nous. Exactement. Mais eux ils exigent que, parce que eux nous désirent, on leur doit de la sexualité. Notre désir n'existe pas.
C'est
quelque chose qui n'est absolument pas symétrique, et c'est quelque chose qui est absolument construit parce que ça les favorise, c'est tout bénef pour eux. Ils voient les femmes qu'ils désirent comme des objets de désir, mais les femmes qu'ils ne désirent pas, elles n'existent pas. Elles sont complètement déconsidérées, elles n'ont aucune valeur. Les femmes qui ont de la valeur pour eux, ce sont celles qu'ils désirent uniquement.
Pendant longtemps, le couple a été encadré par d'autres institutions, par des institutions, qui étaient le mariage, la religion s'en est aussi beaucoup mêlée. Mais aujourd'hui, comme tout ça, ça ne tient plus forcément le couple, eh bien, la sexualité est venue comme une sorte de maître étalon de l'épanouissement conjugal, de l'état de la relation amoureuse, comme une mesure, en fait, de ce que serait un couple épanoui. Donc, un couple épanoui, dans la norme dominante, ça serait un couple qui ferait l'amour souvent, ou en tout cas régulièrement. Donc, c'est comme si on avait toujours besoin de formes d'injonction, ou en tout cas de normes, pour que le couple hétérosexuel subsiste. Par exemple, quand les médecins au 19e siècle disaient que c'était bon pour la santé de faire l'amour, ce qu'ils entendaient préserver, en réalité, c'était le couple hétéro et le mariage et l'institution du mariage, puisque on disait que le fait de faire l'amour régulièrement, c'était un rempart à l'infidélité, au divorce, etc. Et aujourd'hui, c'est encore un discours qu'on entend. On dit attention, faut faire l'amour souvent, sinon vous allez être quitté, vous allez être trompé, on va vous laisser, vous serez délaissé, vous serez peut-être une femme déchue ou vous serez moins un homme. Enfin, en tout cas, c'est comme si notre valeur en tant qu'individu, elle était corrélée au nombre de rapports sexuels qu'on avait, ce qui est vraiment très limité. Et puis après, ça nous pousse également évidemment à la consommation, puisque que faire pour soi-disant raviver la flamme? Ben, consommer. D'ailleurs, c'est souvent les femmes qui s'y collent, acheter de la lingerie, acheter des sextoys, aller voir un sexologue, etc.
Et ensuite, tu disais par rapport à une position de pouvoir. En fait, la position de pouvoir, elle vient quand l'expression d'une envie ou d'un besoin sert à contrôler et contraindre l'autre, et que l'autre n'a plus la place de refuser, ou alors qu'il y a une sanction qui plane, que la sanction soit réelle ou perçue. En fait, le fait de sentir qu'il peut se passer quelque chose, parfois ça suffit. Et donc, dans cette stratégie de réponse aux besoins des uns et des autres en relation, pour que ça reste une situation dans laquelle il y a moins de pouvoir, il faut que chacun, chacune des partenaires puisse refuser de répondre à un besoin de l'autre. Et il y a toujours, normalement, une possibilité que ce besoin soit répondu d'une autre manière que par le partenaire. En tout cas, il y a souvent d'autres stratégies qu'on ignore. Et c'est important de mettre l'accent dessus.
Et du coup, est-ce que toutes les envies peuvent être exprimées de la même manière selon la position dans la relation ?
Alors, dans l'idéal, oui. Si on a réussi à créer une relation où la confiance et la sécurité règnent, chacun, chacune doit pouvoir exprimer ses besoins et ses envies sans jugement. Ça doit être accueilli. Après, ça ne veut pas dire que, parce qu'on exprime un besoin ou une envie, comme le disait Jules, que l'autre doit y répondre obligatoirement. Ce qui est important, c'est que l'espace pour exprimer ses envies et ses besoins soit là, qu'on puisse être entendu et compris, comprise. Mais après, en fait, ça va être de la discussion et de la capacité, de l'envie de l'un et de l'autre de répondre à ses besoins ou ses envies.
Et la confiance et la sécurité dans une relation, elle n'est pas acquise dès le départ. C'est quelque chose qui se gagne par l'expérience, mais c'est par les actes. Et c'est pas parce qu'on a croché ensemble que la confiance et la sécurité sont là.
Je te parle de poli machin, mais en vrai j'y connais rien. Et je galère encore à poser les mots. Je suis comme tout le monde, on m'a dit, y'a qu'une façon de faire. Et ça m'a bien cramé le ciboulot. Si on est 7 milliards, bah y'a 7 milliards d'amour. Je te parle de moi, pas des autres, pour ça j'ai pas les clés. Mon cerveau hiérarchise pas les gens. Et je veux plus avoir peur d'en parler. Parce que c'est la merde sur terre. Et je crois bien qu'on va tous mourir. Et quand je rencontre quelqu'un et qu'on se fait du bien, faudrait qu'on se retienne de se faire plaisir. Et si l'amour et l'amitié, pour moi c'est pareil, plutôt crever que te forcer. Je vois bien que ça te fait mal quand tu me dis, je veux bien essayer. Et j'aimerais te dire, bébé, j'ai laissé mon âme dans cette chambre qui sentait la pluie. La nuit d'orage où on s'est dit au revoir dans cet hôtel à Düsseldorf. Mais j'aime pas t'appeler bébé et je crois pas en l'âme. Et y'avait ni chambre d'hôtel ni pluie. Le beau jour de soleil où on s'est dit au revoir. Très très loin de Düsseldorf. Et je mentirais si je disais que le cul a rien à voir là-dedans. On a qu'un seul ticket pour cette fête, après c'est le néant. Et j'ai pas l'impression d'être le plus gros des tarés en 10 ans. Qu'on peut aimer quelqu'un et vouloir baiser d'autres gens.
Est-ce qu'on se revoit, Germain?
Tu veux te faire voir? Cool.
Ceci n'est pas une proposition
non, mais
de
je
date.
Sais pas, tu vois, quand même, il y a du monde, je veux bien mais qu'on en parle. Mais
on vous laissera un moment seul, seul
ouais,
après.
Voilà.
Non, c'est plutôt... On reviendra faire une émission.
Oui, carrément, avec plaisir.
Quelle émission ?
La numéro 3.
La numéro 3. De quoi parlerons-nous,
voilà.
Karine, dans la numéro 3 ?
Eh ben alors, dans l'émission numéro 3, on parlera de la jalousie au sens large, mais ça sera aussi un moment où on pourra parler de l'expression des envies et des besoins, et du fait de se sentir écouté dans une relation.
Et des limites.
De sécurité.
Merci.
Trop bien, vivement l'épisode deux. Numéro 3, alors.
Merci à vous.
Midi allez mon petit coco poivre, mes vêtements lèvres. En gaz aiguille, mon dan rouge dans ton yeux vert. Oui, fais ma zine à moi, Agnès, sirène et bonne Geneviève. Pénèle à mes petits enfants, mon esprit l'entrave. Il m'est indifférent. Que l'oiseau dans l'allée aille d'un arbre à l'autre, il peut bien s'envoler. Je lui dis mon petit gars de poivre, je t'enlève. Tu peux brancher les rhéostats dans tes yeux verts.
Tu me rappelles Agnès Irène et Geneviève. Ton âme est innocente et tes baisers pervers.
Je sais traîner mes cils sur le boblon qui passe. Tu ne me joueras point la scène d'Othello. Sais-tu qu'après l'amour tous nos baisers s'effacent. Le bonheur absolu n'a cours que chez les sots.
Il m'est indifférent que l'oiseau dans l'allée aille d'un arbre à l'autre, il peut bien s'envoler.
Je lui dis ça va pas durer jusqu'aux cerises. Je pense qu'un grand amour serait mieux à mon teint. Et moi j'attends un homme quand il m'aura prise. Il me couvre des yeux comme un riche butin.
L'amour n'est pas toujours la ma petite grippe. L'amour promet souvent, c'est un bon député. Mais sache qu'il est fait de sang et de salive. C'est parfois un délice de s'en contenter. Il m'est indifférent que l'oiseau dans l'allée aille d'un arbre à l'autre. Il peut bien s'envoler. Ne laissons point le temps endamer ses outrages. Allons voir si la rose a l'éclat de des jours.
Papa, on s'inquiétait par une cloche à fromage. Disait qu'il faut danser quand la musique joue.
Ta lèvre humide est pour moi d'excellent augure. Ton corps, ta gorge ferme, je n'en veux pas plus.
Sais-tu qu'un arc-en-ciel, si beau soit-il, qui dure. Au-delà d'un quart d'heure, j'ai dit vous me jugez sans doute un peu bégueule. Mais je méfie de ceux qui ont choisi d'arpenter ce jardin où les robes s'ouvrent toutes seules. La mienne, celui qui m'aime, pourra seul me l'ôter.
Et c'est ainsi, messieurs, que je me suis fait faire aux pattes. Le vent qui bat sa porte et fait de mes soupirs. Elle me fait mal avec l'eau du gros sur la patate. Les honneurs de son corps consentent de l'âme.